Bah, salut à tous, donc lundi 20h, vous écoutez bien ND Chaîne.
Bonsoir. Du coup ce soir, c'est la diffusion de la deuxième partie de L'Envolée, de la version sonore de L'Envolée, numéro consacré à Fred Ben Hotman.
Voilà, il y a eu un premier volet la semaine dernière que vous pouvez retrouver sur le site de ND Chaîne, donc ndchaîne.free.fr.
Allez hop, une petite intro là, à l'occasion de cette émission un peu spéciale sur Afed Ben Hotman, malheureusement décédé, on vous l'a dit. Afed le rebelle, rebelle avant la tôle, la rebelle en tôle et rebelle encore et toujours après la tôle. Donc je crois que c'était un ami, mais avec certitude c'était un camarade. Mais lui, il aurait dit un frère de lutte. Mais avant qu'on parle de lui, j'avais envie de vous partager un moment auquel j'ai eu la chance d'être invité il y a peu. Invité à fêter la fin de 50 conditionnels d'un pote, d'un frère de lutte, après 26 années de prison. J'ai bien dit de la chance d'être invité. Invité à fêter, rire, manger, boire et parler, parler à une table où plus d'un siècle de prison sont assises. Donc voilà, après un repas copieux et quelques verres déjà bien coulés, on n'est plus qu'une quinzaine à table. Il fait tard. Et je disais oui, un siècle, peut-être deux siècles de placard assis là. Et ça parle. La tôle, la vie, blabla. Alors bien sûr, pas d'idolâtrie et autres bizarreries, la prison ne regorge pas de gens formidables. Ou bien qui, après 10 ou 20 ans de placard, deviendraient de vieux sages ou des philosophes révolutionnaires. Mais là, comme ils diraient, eux, j'ai un peu droit à la crème. Je m'explique. Comme un système d'élite, mais inversé, qui fait que la crème de la tôle, à l'époque, elle se retrouve dans les cuits, tout en bas. Alors je suis là et j'écoute et je bois. Vin et parole d'hommes de parole en liberté sur parole. Ils n'ont pas plié, ils ne sont pas rognés, et ils te disent. Attention, en prison, il y a beaucoup de crapules, hein, et la plupart d'entre eux sortent comme ils sont rentrés. La prison ne change rien, on le sait. Tu rentres pourri, tu sors pourri. À part, des fois, le pire, il y a des mecs bien qui rentrent et qui sortent pourris. Car la prison, tu sais, c'est soumission, domination, mensonge et trahison. Et ça te donne pas envie de te faire des potes. Donc voilà, ceux qui étaient à cette table, c'était pas des crapules. Et plusieurs étaient tombés parce qu'ils voulaient changer le monde. Résistant au monde, puis à la tôle. Résistant au pire. En tôle, ils voulaient changer la tôle. Et hop, au QI. Et là, ils se sont fait des amis. De la crème. 10 ans, 20 ans, à se battre pour que tel ou un tel puisse voir un docteur, aller à l'école, voir sa famille, pour qu'il sorte de l'isolement. Avec des refus de plateau, des refus de remontée de promenade, essayant de convaincre l'ensemble des détenus. Aussi avec des courriers, et surtout avec des amitiés quand même, qui font céder tel directeur ou tel surveillant. 10 ans, 20 ans, 30 ans à se faire balloter, à résister, puis à perdre ses amitiés, tout en ayant peur de s'en faire de nouvelles. Garder son courage en transcendant ses petites lâchetés quotidiennes. 30 ans de placard et le gars te dit ça. Garder la confiance au-delà des trahisons. Pas celle des matons, bien sûr, rien à attendre, mais des autres détenus. Car ce sont celles-là qui font mal, pour une petite remise de peine, un petit aménagement, un petit privilège. Chaque défaite écrit l'histoire d'une victoire. 20 ans de placard et te dit ça. Waouh! Donc à ceux qui sont tombés parce qu'ils voulaient être les rois du monde, les blindés de la terre, des bourgeois quoi. Finalement, en faisant la même chose que d'autres, devenus riches et respectés, car légal, ils comprennent pas bien ce qu'ils font là. Il suffirait de légaliser le proxénétisme, la drogue, les armes, le jeu et voilà. Et le capital ne s'en sortirait que mieux. Pour tous les drogués, les pétés du casque, les chauffards, les désespérés, les malheureux, la prison n'aide personne. Mais là, à quoi ça sert? Ils sortent comme ils sont rentrés. Quant aux rebelles résistants, et même aux simples réticents à ce monde, braqueurs, voleurs, escrocs, de banques, de bijoux, d'assurances, honnêtes, ne veulent jamais plus pauvres que soi, eh bien la prison, elle a été faite pour eux. Alors pour ne pas sortir autrement que comme ils sont rentrés, ils résistent, ils y résistent, comme ils peuvent, à l'intérieur, cherchant dans le meilleur de chacun des autres détenus des élans de solidarité et de lutte, pour que peut-être ils ne sortent pas eux comme ils sont rentrés. Et ces personnes à l'intérieur dont je vous parle, ils ne veulent pas qu'on les aide, ils ne veulent pas de l'aide, je vous assure, c'est des grands garçons. Mais ils veulent de la solidarité, du soutien dans ce qu'ils font, faire savoir dehors ce qu'il se passe dedans, faire connaître leur réalité et leur combat. Et Le but n'étant pas, encore une fois, de changer le sens de la prison, mais d'entraver, d'enrayer, de gêner son travail de sape, d'isolement et de torture. Permettre à ceux dedans de rester vivants, tant en courage qu'en confiance. Nous ne rêvons pas de la fin des prisons de ce monde, mais de la fin de ce monde de prison.
Version sonore du numéro 41 de L'Envolé, avec des entretiens et des textes d'Afed Bednotman, voleur, écrivain et cofondateur du journal, pour en finir avec toutes les prisons.
Les condamnés à perpétuité vont trancher dans le vif du sujet, voire même tailler dans le gras du citoyen.
Deuxième partie.
D comme désobéir.
La plus grande violence faite à l'humain, c'est la soumission. Moi, ils ne m'ont jamais soumis. J'écrivais, je revendiquais, je vivais. Je me suis fait virer de Fleury-Mérogis, la grande usine carcérale, parce que quand le directeur a su que j'étais là, il m'a fait transférer en urgence à Fresnes. À Fleury, en promenade, tu es entre 100 et 200 personnes. Tu peux parler avec eux, fomenter une révolte. Alors qu'à Fresnes, on était deux en promenade. Deux DPS, détenus particulièrement signalés. J'étais avec un mec du Monténégro qui ne parlait pas français et qui ne pensait qu'à s'évader. Ensuite, ils m'ont mis avec les Basques, puis avec les Corses. Des endroits où je ne pouvais pas faire de prosélytisme. Et je suis toujours sortie en fin de peine, jamais en conditionnel. Parce que je me suis jamais soumis. Je n'ai jamais été dans la comptabilité, parce que le terrain m'intéressait. Entretien dans l'article 11, 2008.
Dès qu'il est question de mettre un gosse de 13 ans en prison, moi je dis que l'État pratique la maltraitance à enfants. On ne fout pas un gosse de 13 ans entre quatre murs. C'est aberrant. J'ai fait un petit roman jeunesse sur le sujet. Et je crois qu'il n'y a rien de plus dangereux que de foutre un gamin en prison aussi jeune, parce qu'il sera avec d'autres jeunes de son âge. Et quand des amitiés se soudent dans l'enfance, et qu'ils se retrouvent à l'extérieur et qu'ils vieillissent ensemble à l'extérieur, ça devient des gens incontrôlables. Voilà, incontrôlables dans le sens où c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, ça me plaît parce que très fréquemment, dans ces équipes de voleurs, qui se sont soudés dans l'enfance, ça amène, quand il n'y en a un qui a un problème, ça amène à la solidarité. Les autres, à la fraternité, les autres le font évader. Voilà. Et il n'y a rien de plus beau qu'une évasion. Je connais tellement de gens qui vivent sans s'évader, c'est-à-dire qu'ils vivent 15 ans, 20 ans, par exemple en couple, voilà. Et ça fait 10 ans que l'un et l'autre veulent foutre le camp, mais ils ne savent pas le faire. Voilà. Donc j'invite toujours à l'évasion, quelle que soit la manière.
À l'école, j'ai d'abord appris le verbe être puis avoir. C'est du verbe obéir que date ma longue fugue loin, très loin de tout chemin apprivoisé.
J'ai toujours choisi de dire non pour une raison très simple. J'avais deux luxes. Le premier luxe, c'est que j'avais pas d'enfant, j'en ai toujours pas. Donc quand on est en prison et qu'on n'a pas à l'extérieur une dette affective ou un truc très très fort au niveau affectif, on n'est pas dans l'obligation de marchander sa liberté. On n'est pas dans l'obligation de faire profit bas pour sortir plus vite afin de retrouver les siens. Donc j'avais ce luxe-là. Et deuxièmement, j'avais ce que moi j'appelle des peines humainement gérables. Voilà, c'est-à-dire que la plus grosse peine que j'ai faite, c'est 9 ans. À l'intérieur de ces 9 ans, j'ai eu ce que j'appelle une fugue, c'est-à-dire une évasion qui m'a donné un petit espace de respiration.
C'est le seul prisonnier de France qui a refusé de sortir quand il a ouvert la porte. Il a voulu finir sa peine.
Je pense pas que je suis seul. C'est pas exactement que j'ai refusé de sortir pour finir ma peine. J'avais fini ma peine. Voilà. Mais je voulais laisser aux copains, parce que, alors c'est drôle parce que c'est inversé. Normalement, c'est un mort qui laisse un héritage aux vivants. Là, c'est l'inverse. Moi qui sortais, donc elle est devenue vivant, c'est moi qui laissais mon héritage à ceux qui sont dedans et qui sont quelque part dans des cercueils. Quoi. Et je voulais leur laisser mes affaires. À qui mes chaussures, à qui mes bouquins, à qui mon ordinateur. Voilà. Et comme je n'avais pas confiance en l'administration pénitentiaire.
Oui, qui risquait de tourbaine dans la cantine générale.
Ou même pour eux-mêmes. Mm-hmm. Donc, la loi me permettait de rester une journée en plus. En disant que j'étais indigent, parce que j'ai toujours été très pauvre en prison. En disant que j'étais indigent et donc que j'avais le droit de passer encore une nuit, ce qui m'a permis de distribuer moi-même mes affaires aux copains. Voilà. Et ça, cette liberté d'irlande fait partie de ça. Ça les a beaucoup énervés. En disant qu'on ouvre la porte à ce salopard et il se paye le luxe de dire pas ce soir, je sortirai demain.
F comme fantasme.
On nous fait croire une fois de plus que la prison est l'école du crime, ce qui est complètement faux, parce qu'elle est essentiellement l'école de la soumission. Dans le cas contraire, il y aurait des révoltes tous les jours. C'est l'école de la sournoiserie et de l'humiliation constante. On crée de toutes pièces l'idée selon laquelle les prisonniers sont tous des barbares qui se violent entre eux sous les douches. En 17 ans, je n'ai pas subi l'ombre d'une approche sexuelle. Le viol en prison est du domaine du fait divers. 1 pour 10 à l'extérieur, et encore.
J'ai 16, 17 ans de tôle derrière moi. Et je peux te dire que l'ultra-violence carcérale, c'est un fantasme, un mythe. Le truc sur lequel jouent les séries américaines comme Prison Break ou que met en scène Hollywood. C'est pas la réalité en France, même si ça existe aux États-Unis. Avec cette concentration d'êtres humains qui vivent et cohabitent, se crée forcément une forme d'entraide, de solidarité. Sinon, tu verrais les ambulances et les corbillards sortir constamment des prisons. Ce n'est pas le cas. Il y a un équilibre qui se fait, avec une certaine dose de tolérance. Ça naît aussi d'une situation commune. Tous sont écrasés par le même système. Plus tu compresses les gens en prison, plus ils deviennent solides, agglomérés et solidaires. Chacun a une histoire qui renvoie à celle de l'autre. Quand tu es dans le fourgon et qu'on te met les chaînes aux pieds, il y a quelque chose qui se crée avec ceux qui sont en face de toi, dans cette même situation humiliante. La prison est la matérialisation physique de l'enfermement extérieur. Mais c'est le dernier enfermement d'une chaîne. Le mec qui dort dans la rue avec son carton est un tôlard. Il est peut-être plus misérable que le mec en prison. On nous fait passer pour des monstres. L'idée principale, c'est qu'on passe notre temps à se violer et à se sodomiser dans les douches. Le cliché de base. Quand tu sors, les gens te voient comme un pervers. Le mec à qui tu demandes un emploi, il te regarde en pensant que tu t'es fait enculer sous la douche. Ta parole n'est plus crédible. Là aussi, le cliché te pousse à la récidive. Personne ne veut de la réinsertion, puisque tu es déjà catalogué « monstre irrécupérable ». Regarde-moi, je suis un multirécidiviste. J'ai des papiers valables 3 mois, avec marqué dessus « N'autorise pas son titulaire à travailler ». Tu t'imagines ? On me dit tu n'as pas le droit de bosser, donc on me pousse à récidiver. Si je n'étais pas intelligent, si je n'étais pas en guérilla sociale via mon association, si je n'avais pas mon éditeur Rivage, comment je ferais ? Je finirais dans un carton, ou je deviendrais dangereux, ou je me laisserais pousser la barbe, et j'irais voir mes frères musulmans en leur disant « T'as vu ce qu'elle me fait la France ? Je suis né ici, et elle ne me laisse même pas travailler. Elle me donne pas de papier, vengeons-nous » D'une manière ou d'une autre, l'État aurait réussi à me recycler, soit en tôlard, soit en SDF, soit en islamiste, soit en fou dangereux.
J'ai comme le grand.
peux pas tourner la page sans lui rendre hommage à celui-là. La torture en Algérie ? Oui, c'est vrai. Il avait 20 piges et on l'a médaillé pour ça. Qui ? L'État qui ensuite a passé un contrat officieux, exécuté officiellement par une police, à 50 contre 1, armé d'engins de guerre. N'importe quel psychologue de la flicaille savait qu'il aurait levé les mains du simple fait que sa femme et son caniche étaient près de lui, dans la bagnole. Son vrai problème, au grand, c'est le Paris Match, qui l'avait fait élire homme de l'année, avant l'abbé Pierre et le commando Cousteau. Les politiques, ça les tue, ce genre de sondage. Et ils ressuscitent vite fait pour te faire passer dans l'autre monde. Le grand avait assez d'oseille pour se tirer loin ailleurs. Il est resté mener son combat contre l'État. Un petit Kadhafi autonome, alors que tant se casse, qui avec son os à la Ben Ali, ou son bout de fromage à la Moubarak, ou la merde au cul à la Sarkozy. Des hommes, ça ? À sa manière, le grand, c'était un Coluche, en moins drôle. Mythomane, plein de glorioles, mon cul. Un homme qui s'évade d'un QHS et qui revient attaquer à deux seulement un pénitencier pour arracher des inconnus. Et tous en plus, je dis respect. Un homme antique, le grand, et de parole. Au Canada, il l'avait dit et bien dit qu'il ferait le boulot de la presse si celle-ci ne le faisait pas. Il a appliqué la même méthode en France. On en a tous mangé, et jusqu'au Festival de Cannes, on te l'a becqué en buffet d'insultes et de mépris, en deux services filmiques. Véritable enculerie. Même les vieux qui n'ont pas eu l'élégance de crever avant s'en sont léchés les doigts, chèques de table en main, et des gros, hein, pas des tickets restaurants. La presse, tout journaliste confondu, ont tant baffré sur lui de son vivant et de son trépas, presque autant que sur le cadavre du petit Grégory, et pourtant, il devait pas être bien gros, ce petit chaton d'amour. Bref, la fermeture des QHS, c'est lui, et personne d'autre. Même s'ils se sont dépêchés d'en masquer d'autres encore plus terribles, sous des dénominations plus douces. Fin de pute va. Et pardon pour les putes qui les font passer dès l'échographie quand elles en ont un, comme ça, dans le bide, flic ou politique. Pour cela, je suis pour le cumul des mandats de dépôt. Et ça m'arrache ma gueule d'abolitionniste de le dire. Ciao grand Jacques, on t'aimait bien grand con. Inédit 2014.
Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part. Dans un monde de béton, aux arbres de barreaux fleuris, fleuris de désespoir. Inhumain rétréci sans aucun lendemain. Sa pitance s'est glissée sous une grille à terre. Et dans un pololo pour qu'il se désaltère, il est seul, sans soleil. Et n'a même plus son ombre, infidèle compagne, et il s'en est allé, refusant d'être esclave de ce vivant borné. Il tourne, il tournera toujours, jusqu'au jour où vaincu en animal blessé. Après avoir gémi en une unique plainte, il tombera à terre et se laissera crever, pour trouver dans la mort sa seule liberté. Pleurit mes registres un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Pleurit mes registres un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Je vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, en voilà une erreur. Mais c'est un homme, madame, il est emprisonné. C'est celui que vos pères ont si bien condamné. En rendant la justice au nom des libertés, liberté. Et fleurit mes registres un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleurit mes registres un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Mesrine. Il tourne en des milliers de pas vie ne mène nulle part. Dans un monde de béton, aux arbres barreaux fleuris, il m'a rétréci sans aucun lendemain. S'habitant séduisé sous une grille à terre, et dans un bol de l'eau pour qu'il se désintègre, il est seul. Sans soleil, et fleurit mes registres un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleurit mes registres un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine, Mesrine. Je vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, en voilà une erreur. C'est un homme, madame. Il est emprisonné. C'est celui que vous paierez aussi bien condamné, Mesrine. En rendant la justice au nom des libertés, Mesrine. Il tourne, il tourne, il tournera toujours, Mesrine. Jusqu'au jour où vaincu en animal blessé, Mesrine. Il tombera à terre et se laissera crever.
H comme ennemi public numéro 1.
Pièce à l'étal du théâtre social, de la guignolade médiatique, du cirque d'État ou one-man show pour acteurs schizophrènes souffrant de dualité interne.
Décor, le crâne vide d'un homme.
Accessoires, deux pensées contradictoires.
Costume, la nudité intellectuelle.
Mise en chaîne d'usine ou de prison ou de télévision.
Qui est l'ennemi public numéro 1 ?
Le chômage ?
Non.
Le sida, la peste, la lèpre, les maladies orphelines ?
Non.
La famine dans le monde?
Non, celle-là nourrit plus de monde qu'elle en fait crever.
La guerre?
Non, je ne vous permets pas de médire de cette idée divine du génie humain qui a fait toutes nos grandes civilisations.
La misère?
Non, celle-ci est synonyme de justice, puisque même le plus pauvre des plus pauvres est toujours assez riche pour trouver plus pauvre que lui.
Putain de bordel à cul, qui est l'ennemi public numéro 1? Nous cherchons le number one, celui qui fait vendre du papier presse?
Oui, oui.
Celui qui fait qu'on pense à lui et non aux amis publics cités dans le listing interrogatif du début ?
Voilà, voilà.
Alors, vous voulez dire, ceux qui mettent en danger le public social des bons, braves, honnêtes gens ?
C'est ça.
Ah, ceux dont on fait des films hollywoodiens qui remplissent les caisses d'argent, alors que dans les fictions, on les voit vider ces mêmes caisses.
Parfaitement.
Vous voulez parler des assassins violeurs d'enfants ?
Non, ceux-là sont des malades.
De quoi ?
D'avoir été nos cobayes, et d'ailleurs de mémoire d'homme, jamais un tel criminel n'a été titré du noble titre morbide d'ennemi public numéro 1.
Oh là là, vous ne parlez tout de même pas des gangsters du milieu.
Non, non, ceux-là sont souvent intérimaires de notre système social. Ils ont même eu une ANPE qui s'appelait la carlingue, puis le sac, etc.
Merde de merde, vous désignez les voleurs ?
Parfaitement, vous avez mis dessus notre doigt accusateur.
Comme Jacques Mesrine ?
Oui, oui, celui-là.
Le peuple l'aimait bien, celui-là.
Jamais de nos vies.
Mais pourtant, dans un sondage Paris Patch, le paix des mots, le ro des photos, distillateur d'aliénation, il a été élu, je crois, l'homme de l'année 1978 par les Français.
C'était de l'intox.
Comme l'abbé Pierre et Cousteau.
Non, là, c'était de l'info.
Mais si ça avait été vrai, il aurait fallu gracier Mesrine, même évadé, puisque le peuple français l'élisait l'homme de l'année et que la justice, qu'il avait condamné à 20 ans de QHS, est rendue au nom du peuple français. Mais au fait, vous leur reprochez quoi aux voleurs ?
Le pire.
De braquer des banques ?
Même pas.
De s'évader de vos prisons ?
On s'en fout comme de l'an 40.
L'an 40 de la Seconde Guerre mondiale?
Ce 40 et les autres, sauf le 40 des voleurs.
Nom d'une bite chauve, je piche pas votre haine des voleurs.
Eh bien, monsieur Ducon, je vais vous expliquer. Ces enfoirés de voleurs sortent l'opinion publique de leur cauchemar, désespérante banalité, où l'hypnotisme politique les a plongés et les fait rêver.
Rêver de quoi?
De se faire voleur, comme eux.
Et alors?
Et alors, c'est la révolution.
Ah, comme les terroristes?
Non, ça c'est des potes.
Quoi?
Oui, c'est des potes qui veulent notre place, comme l'ami veut ta femme. C'est rien. Quand on ne peut pas la leur refuser, on leur en fait une petite et tout réjoué.
Même les Basques?
Oui.
Les Bretons?
Bientôt, s'ils cessent d'être têtus comme à vouloir parler le breton. Super dur à apprendre.
Les Corses?
Longtemps que c'est fait.
Mais ce sont vos ennemis.
Adversaires seulement, et pas publics. Ils veulent notre système, et quand ils l'ont, on leur laisse le temps de l'améliorer pour que nous puissions le reprendre ensuite. Dès qu'ils nous ressemblent, on cesse les hostilités.
Par la révolution?
Non, par le terrorisme.
Et la révolution de 89?
C'est le brouillon de celle de 17.
Je parle de la France, pas de la Russie.
Entre nous, il n'y a pas de frontières. Revenons au terrorisme.
Mais ils tuent aussi avec les attentats.
Bah nous, comme avec nos guerres.
Mais ils font des bombes.
Beaucoup moins dangereuses que nos lois.
Alors l'ennemi public numéro 1, vous pouvez pas en faire un intérêt numéro 1?
Ben si, mais ils veulent pas.
Comment ça? Trop de pureté?
Non, trop de conneries. Ils veulent pas être des adultes responsables. Ils ne désirent qu'une chose.
Quoi?
Être des hommes.
Hein?
Ouais, des hommes. Et pas des mannequins automatisés, individualistes, corporellement, mais clones dans la tête.
C'est affreux ce que vous dites.
Vous êtes qui, vous?
Ben, un homme.
Et vous faites quoi?
Ben, ma vie.
C'est tout?
Oui.
Bougez pas de là. J'ai quelque chose pour vous.
Quoi? Un cadeau?
Mieux que ça. Un boulot, un job, une vocation. Hé, les gars, amenez les flingues et les journalistes. J'en ai trouvé un nouveau.
Un nouveau quoi?
Ennemi public numéro 1.
Attendez.
Allez, en piste.
Mais je ne veux pas frapper dans le public.
Avec tout ce qu'on vient de se dire, croyez-moi, vous allez sacrément frapper l'esprit du public.
Ça y est, j'ai compris.
Et trop tard, du con.
J comme juré craché.
J'aurais bien voulu arriver dans le box des assises avec un costume décent, mais ma garde-robe ne savait pas compter jusqu'à 31. C'est avec ma panoplie d'enfant sage, trouée par l'arrestation et recousue à la diable, que je posais mon cul sur le banc d'infamie. J'avais 3 jours de procès, 3 jours assis sur le bois de furoncle. Vieux routier, la salle d'assises ne m'impressionna pas le moins du monde, et l'œil à niveau de visage, je me tournais vers les 45 jurés, dont 9 devaient apprendre à me haïr sans le montrer. Les jurés sont une espèce très étrange à observer. Au début, ils ne se connaissent pas, ils se jettent des regards de chasse électrique. Puis, ils se détendent au fil des jours et on peut les voir se faire des signes d'intelligence. Grâce à moi, ils deviennent amis dans le partage d'un secret qui les unira sur ma tombe à vif. Ils devaient s'offrir des petits cafés les uns aux autres et rigolant, boire à ma santé un petit verre de rhum. Les moutons tiennent un loup et sous leur laine, des estomacs dentés. Le président commença à tirer les heureux gagnants. La tambola leur donnait des sueurs timides. L'un après l'autre, humble et soumis, ils passaient entre la défense et l'accusation et le dos voûté attendant la terrible condamnation d'un récusé. Ces affreux se sentaient coupables, peut-être de leur sourire hypocrite en franchissant le couloir du jugement. L'épreuve passée, ils se rengorgeaient, se saoulaient et toutes leurs attitudes promettaient la vengeance pour avoir eu si peur d'être rejetés dans leur quotidien. On allait en faire des dieux, ils étaient avides de géniflexion pour me mettre à genoux, mains jointes. Ils allaient être déçus. Installés de part et d'autre du président et de ses assesseurs, ils me condamnaient d'avance avec leurs yeux d'imbéciles sévères. Les femmes avaient sorti leurs robes à fleurs de dimanche de kermesse. Elles fleuraient l'âcre parfum en solde, les litres sous plastique griffés monoprix. Les hommes avaient passé leur plus beau costume, bien noir, celui des enterrements et des mariages. Ces hommes et ces femmes ressemblaient à tout sauf à des êtres humains libres. quand bien même l'un d'entre eux l'eût été, je ne l'aurais pas remarqué, ni reconnu, pour la bonne raison que je n'avais aucune référence pour distinguer un esclave d'un affranchi, un affranchi d'un homme libre. De toute ma vie, je n'en avais jamais rencontré un.
K comme keuf.
La police à l'ancienne ? Ah, je la connais bien, moi, la police à l'ancienne. Et si vous voulez tout savoir, elle a rien, mais rien de respectable. Une vraie saloperie que cette institution, mes amis. D'aussi loin qu'on la remonte, et pour pas aller du côté des taggeurs de graffiti préhistoriques, on va commencer par cette merde de Vidocq, bagnard devenu chien de garde en détournant d'autres marlous de leur vocation première. Bref, les embryons viennent de là, donc du crime, même repenti, même rédempté. Et c'en est devenu génétique l'esprit criminel chez les flics. D'ailleurs, eux-mêmes le disent. Les voyous et nous, c'est quasi la même, presque du cousinage. La différence, monsieur la petite salope, c'est l'impunité. Le voleur, il mange ses dents cash. Toi ? Eh non. Je crois bien que j'aime pas les flics, ni à l'ancienne, ni à la nouvelle. Faut être un drôle d'être humain pour entrer dans cette institution de dégueulasserie. Aucun homme ou femme digne de ce nom, et qui se respecte, ne devrait postuler là-dedans, même crevant la famine pour biais mental. Les temps ont changé ? Ouais, ouais. Demandez aux canaques, et aux cités de sensiblerie émotive. En plus, il y en a des juifs et des arabes et des noirs plein la basse-cour, mon dieu. Ils ont pas pigé un truc. Enfin, si, ils ont compris un quelque chose, ces ploucs. Ils croient en la justice de leur pays. Moi aussi, comme tous les apatrides, j'y crois en la justice de mon bled.
Elle comme le million.
On a grossi les rangs des victimes en transformant les témoins d'actes violents en victimes. Avant, la sagesse populaire voulait qu'un témoin dise, de peur d'être emmerdé. J'ai rien vu, même lorsqu'il était sur place. Par la grâce de la psychologie, ce témoin est devenu un traumatisé d'avoir vu une violence. Ce traumatisme qu'il subit lui est légalement expliqué. Et le voilà très intéressé par cette pathologie qu'on lui découvre et qu'il ne soupçonnait pas lui-même. Du second rôle de témoin, le voilà promu premier rôle, victime. Oui, il était là, il a tout vu. Oui, oui, depuis il n'en dort plus. Il n'en branle plus une au boulot. Il délaisse femme et enfants. Il souffre. Alors, ce témoin qui ne voulait pas se faire chier gratuitement chez les flics, chez le juge, puis au procès durant des jours, le voilà victime. Et celle-là parle là où le témoin aurait fermé sa gueule. Premier pas vers la délation, puis vers le profit, la reconnaissance. Ce témoin devient aussi la béquille de la victime, celle qui a subi un préjudice. Cette victime doit répondre à des critères pour que la justice et la police lui donnent son statut. Elle ne doit pas être sympathique au point de comprendre ou de pardonner. Après le procès, elle peut faire comme le pape, pardonner à son agresseur. Mais surtout, pas avant le procès. Parce qu'en procès, on a besoin, non de sa sympathie, mais de sa pitoyabilité. Là, pardon d'inventer des mots, mais Oreste oblige. Le fameux réfugié politique italien, Oreste Scalzone. Et il est notamment connu pour sa réflexion sur la notion de victime. Victime, victimable, victimiste. La victime est la proie d'un prédateur qui, par chance, en réchappe et s'en sort vivante, arrive dans la grande sélection pour le loto pénal. Qu'est-ce à dire ? Elle a trois étapes. D'abord, prouver qu'elle peut prétendre au rôle de victime. Deux ou trois coups de couteau dans le ventre suffisent. Puis elle peut accéder au statut de victimable, selon le degré de dommage subi. Jusqu'au procès, sa position est instable, pour X raisons. Vice de procédure, manque de preuves, et le pire pour la victime, même si elle est pour la peine de mort, le suicide, avant le procès de son agresseur. Là, elle devient folle de rage, la victime. Au procès donc, si tout se passe dans les formes, le tribunal lui accorde la fonction de victimiste selon le pourcentage d'intérêt perçu. Et là, on parle évidemment d'argent. Le lien le plus proche pour la compréhension de tous est la notion d'héritage. On perd un proche, on pleure, on est triste. On en appelle à la justice ou à l'injustice de Dieu, qui une fois encore a pris le meilleur d'entre nous. Et soudain, dans tout ce noir malheur, une lumière pour faire le deuil. Au bout du tunnel, on va toucher des thunes. La police l'a bien compris. En tant que partie civile, elle ne dit pas « ce sont les risques du métier » avec fierté. Mais « j'ai subi un trauma » pour faire pitié. Elle arrondit ses fins de mois en tant que victimiste. Le policier a d'autorité, grâce à sa fonction, le statut de victime éternelle, quoi qu'il arrive. Même lorsqu'il tue, le policier est victime, ne serait-ce que du trauma qu'il subit en tuant quelqu'un. Il ne dort plus, il ne mange plus. Revenons à notre victime classique, devenue victimiste après la première étape de victimable. Ce qu'a été la gamine du RER qui avait fait croire à une agression antisémite avant d'être confondue. La victimiste est souvent très étonnée le jour du procès où elle doit toucher les 6 numéros du loto pénal. Tout d'abord, on parle de cour d'assises. Son avocat, en partie civile, réclame des années de prison contre le prévenu, alors que le procureur vient de le faire. La victime ne comprend pas. Elle est là pour le dédommagement. Et en son nom, son avocat de partie civile plaide que son agresseur fasse un max de prison. Il ne dit pas un mot sur le pognon. La victime devient folle. Elle a pourtant tout bien fait. Elle a pleuré, tremblé, chargé l'accusé au point qu'elle se demande même s'il ne va pas choper la haine après elle. Bref, tout se fait en son nom. Sauf qu'on ne parle toujours pas d'argent. Alors qu'elle a son ticket gagnant, que se passe-t-il? Eh bien, la victime en perd son latin. Et oui, la cour d'assises, le président, les assesseurs et les jurés reviennent avec la condamnation, mais sans le dédommagement. La victimiste doit alors attendre, encore. Si l'accusé a pris une peine entre 5 ans et perpétuité, il estime qu'il a eu son addition et qu'il va la payer, bon gré mal gré. Alors que le procès en civil, qui suit le procès au pénal, le condamné n'y est pas plus accessible qu'il n'est solvable, tant s'en faut. Il ricane même parfois, la victime ne pige plus, même le gars du box rigole. La victime est appelée à la barre. Et là, il n'y a plus de juré populaire pour gueuler et l'encourager d'un ton tonitruant « le million, le million ». La justice n'est pas con, elle a renvoyé les jurés. Et pour les procès civils, il ne reste que la victime et les magistrats professionnels. Le président appelle la victime à la barre et lui dit grosso modo qu'ils ont mis 20 ans de prison aux condamnés grâce à elle et à cause d'elle. Que veut-elle de plus? La victime tente timidement le million. Son avocat la restreint dans ses prétentions, avec une proposition à 25 000 euros. L'avocat de la défense plaide l'insolvabilité de son client, qui n'a pour les parties civiles que les 10% sur les 100 euros mensuels que son client gagne en prison. Et qu'en plus, il n'est pas solvable, comme 95% des prisonniers. Et qu'en fait, les 25 000 euros, ce sont les contribuables innocents qui vont les payer. La victime, du coup, se sent coupable. La victime, à ce moment, ne comprend pas que c'est son procès à elle que les deux avocats, défense et partie civile, le président et les assesseurs lui font. Ils la marchandent. C'est pourquoi les jurés sont priés de foutre le camp et de ne pas siéger au civil après la condamnation. Résultat, la victime se retrouve avec 1000 ou 10 000 euros selon le pourcentage ou le degré du préjudice subi. La justice a été rendue. 2 ou 3 ans d'instruction. De la haine à ne plus savoir qu'en faire. Une vie foutue et une victime qui n'a pas compris qu'il lui manquera toujours un numéro dans ce jeu truqué où elle mise sa vie. Elle retourne à sa vie sociale en espérant être la proie d'un autre prédateur. Après tout, 3000 euros et la reconnaissance publique, c'est aussi bien que de passer à la télé. D'ailleurs, à sa discute de la rue, ils ont passé une annonce. Vous avez été victime d'un crime ? Venez nous raconter, soyez la victime d'une escroquerie. Lettre de Fresne à l'envolée, d'Afed, juillet 2005.
jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Un ciel tout bleu. Oh, 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 supporter un ciel noir 3 jours sur 2. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Oh, 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 pour connaître le prix de la liberté. Moi je le connais, je suis un évadé. Oh, pour espérer des soleils disparus. Je les vois briller, je suis un évadé. Oh, qui ne sait jamais laisser enchaîner. Jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé.
Version sonore du numéro 41 de L'Envolée, avec des entretiens et des textes d'Afed Bednotman, voleur, écrivain et cofondateur du journal, pour en finir avec toutes les prisons. Deuxième partie.
M comme magistrat.
Rendre justice. En voilà une expression parfaite. La vomir. La dégueuler.
Nous avons une qualité que les scientifiques ont reconnue. Nous sommes durs à la souffrance. Alors qu'attendons-nous pour serrer nos dents, nos fesses, nos poings, en nous mettant debout face à eux ? Je ne demande pas qu'on aille au casse-pipe, mais pour la première étape, que nous nous décomplexions. Déjà ôter le pouvoir de crédit aveugle donné à nos défenseurs. Qu'ils soient nos traducteurs, à la rigueur, mais nos ventriloques. L'avocat a deux rôles, parler pour nous et nous défendre. Pourquoi la première chose ? Eh bien pour que nous ne puissions pas parler directement aux jurés. Ils nous interprètent, parce que les magistrats ne veulent pas que la chienlit que nous sommes à leurs yeux et à leurs oreilles leur cause d'égal à égal, d'homme à homme. La seconde, nous défendre afin que nous n'attaquions pas. Un exemple tout simple, l'interrogatoire de cour d'assises. Toutes leurs questions sont affirmatives, rarement interrogatives. Ce qui fait que nous répondons par oui ou par non et que la parole nous est retirée de suite, soit par la question suivante, soit par un « nous verrons plus tard ». Et ce plus tard est ruminé ensuite dans le regret au fin fond de nos cellules à coup de « j'aurais dû ». Aux assises, dans une fourchette de 6 mois à 3 ans, la peine est fixée d'avance. On le sait, et ils le savent, et ils nous demandent de miser sur ce pourcent de produits gratuits, échantillons ou réductions entre 6 mois et 3 ans. C'est dans cette fourchette qu'ils testent notre liberté de parole ou notre autocensure par la soumission. Combien de fois ai-je entendu un condamné joyeux d'avoir pris 3 ans quand l'avocat général en requérait 12 ? Vous avez pigé ? Votre contentement est le signe de votre soumission. L'arroseur est arrosé, mais du sperme du proc. Idem dans le cas contraire, réquisitoire de 9 et peine de 12 ans. C'est le même système puisqu'on revient avec le sentiment d'injustice adouci par la comptabilité des grâces, 3 ans. La soumission que nous n'avons pas eue dans le box ou alors que nous avons mal joué se jouera intramuros dans la prison. C'est à l'instruction qu'il faut semer ce qui poussera au procès. Je m'explique, et pardonnez-moi pour tomber dans le cas personnel. Lors de la garde à vue, avec toutes les preuves contre moi, j'ai nié calmement durant 2 jours, et j'ai avoué une demi-heure avant la fin de garde à vue. Hormis ma déclaration disant « je reconnais les faits et je ne conteste en rien les versions des témoins », il n'y avait rien, car il était trop tard pour rentrer dans le détail du passage à l'acte. Et j'arrive chez le juge avec des aveux pour ne pas me le mettre à dos et à charge. Pourquoi ? C'était la récidive ou la clochardisation. Et sur mes 2 jours de dénégation, j'ai fait un blocage psychologique. Je n'arrivais pas à me reconnaître moi-même. Déni classique et démontrable, puisque ce ne sont pas les faits que je ne reconnais pas, mais ma personne. À l'instruction, je suis dans la même démarche, avec un plus. Je dis au juge que je ne peux pas argumenter ma défense en répondant à ses questions dans son bureau, hors de mes 3 réponses suscitées. Car répondant à ces questions, je ferai d'elle, malgré elle, la juge instructeur, un magistrat partial. À toutes ces questions, je donne la même réponse. Je ne refuse donc pas de répondre, je me réfugie derrière ma défense en reportant ma réponse pour le jour de la plaidoirie du procès. Évidemment, la juge me demande pourquoi son instruction classique ferait d'elle un juge partial. Là, pas de réponse, autre que « mon avocat répondra à cette question pendant sa plaidoirie ». Idem le jour du procès. Casser le questionnement affirmatif du président par la même réponse. Mon avocat répondra à cette question tout à l'heure dans sa plaidoirie. Ce que je n'explique pas à la juge sur sa partialité et l'impartialité, je l'explique à mon avocat et bien évidemment à vous. Pourquoi le juge instructeur cherche à récolter le plus de choses possibles sur votre personnalité, vos actes, votre démarche, votre état d'esprit ? La réponse est simple. Pour que l'avocat général ait tous les éléments en sa possession pour son réquisitoire. Et ces éléments sont forcément ceux dont la défense va se servir pour étayer sa plaidoirie. Vous donnez au juge d'instruction. Le procureur le reprend dans son réquisitoire pour tout démonter. Vous répondez au président à la totalité de ses questions. Le procureur reprend tout idem pour le démonter. Et hyper important, le procureur parle en premier au juré. Alors, eh bien, le juge stocke les informations une fois. Le président vous les fait préciser une deuxième fois. L'avocat général les démonte et les avance. Il s'amuse souvent à faire une caricature de la plaidoirie programmée de la défense, en les répétant une troisième fois et enfin, lorsque votre avocat plaide, il reprend les propos une quatrième fois et les jurés, au bout de 2 jours, ils se disent « ça va, on a déjà entendu ça 3 fois » et ils n'écoutent plus l'avocat, qui ne peut que sortir de son chapeau des lapins exhibés depuis 2 jours, voire plus, car la partie civile resserre le discours. Tandis que lorsque l'on dit le strict nécessaire, en radotant ces 4 phrases, mon avocat répondra à ces questions tout à l'heure dans sa plaidoirie. C'était la récidive ou la clochardisation. J'ai fait un blocage psychologique et je n'arrive pas à me reconnaître moi-même. Je reconnais les faits et ne conteste en rien les versions des témoins. L'avocat général ne sait pas ce que va plaider l'avocat. Alors il suppute une défense classique et misérabiliste. Là, lorsque l'avocat plaide, il les attrape où on ne l'attend pas. Et pour les jurés, ce sera tout neuf et pas le moins du monde réchauffé. L'avocat parle en dernier et ensuite le prévenu. Le procès terminé et personne ne connaît vos arguments pour les détourner et ou les galvauder. Même pas un procès en rupture. Pas de scandale. La partialité du juge tient donc dans le fait que si on répond à ces questions sur le fond et la forme, elle lèse la défense qui parle en dernier et favorise le ministère public qui prend la parole en premier en sachant déjà ce que va dire la défense. Résultat, partialité de juge d'instruction et du président de la cour qui, je le répète, favorise l'attaque en lésant la défense. Aujourd'hui, lorsque les flics attrapent un mec qui ne balance pas, ils le regardent comme s'il s'agissait d'un martien, ou d'un dinosaure, ou du dernier des abrutis. Puisqu'aujourd'hui, l'indique est salarié et bientôt syndiqué. À une autre époque, Caligula avait fait torturer un voleur qui refusait d'avouer et de dénoncer son complice. Je vous laisse imaginer ce qu'était la garde à vue romaine avec la bénédiction de Caligula qui est au pouvoir ce que Sarko serait à un étron usiné par un anus canin. Serait, car au conditionnel, ne laisse pas prise à la diffamation. Le voleur n'a pas parlé sous la torture. Caligula l'a libéré, lui donnant son poids en or. Voilà où sont nos valeurs à nous. Non pas citoyen mouchard, mais marginal têtu, orgueilleux, con peut-être, mais terriblement fier. Lorsque nous n'osons pas dénoncer la torture infligée par l'administration pénitentiaire, surtout lorsqu'elle touche à la susceptibilité de nos rectums voyoucratiques, c'est cela qui fait blocage. Alors, psychorigide pour psychorigide, autant en faire un atout de qualité. Ou alors nous sommes, vous inclus, cons et lâches. Et là, même pas la peine de relever la tête pour faire coin-coin, dedans et blablabla dehors. Nous méritons ce qui nous arrive, car nous aurions alors des mentalités de perdants, et au-delà, de soumis. Je sais que c'est facile à dire ça, mais que disons-nous dans nos colères impuissantes? Nous ne disons pas « oui monsieur, merci monsieur ». Nous disons, et quel qu'en soit le prix à payer en mitard, aux autres « va te faire, je t'en... » Maintenant, ne nous trompons pas. Ce n'est pas au maton qu'il faut dire ça. Car qu'est-ce qu'un maton, sinon un vendu du prolétariat qui a choisi d'opprimer un autre enfant du prolétariat pour bouffer? D'ailleurs, quand l'un d'eux m'agace, je le regarde dans les yeux et je lui dis avec beaucoup de pitié « Ah là là, je comprends. C'était dur, hein, tous les jours, d'aller pleurer à la NPE. » 9 fois sur 10, il baisse la tête en ronchonnant. Quand il ne la baisse pas, c'est qu'il a passé l'examen dont les questions ont été baissées au-dessous du seuil de pauvreté intellectuelle. Dans ce cas, il n'a pas saisi mon allusion à l'ANPE. Et en fait, il est un douanier à la Fernand Reynaud. Nos ennemis sont bel et bien les magistrats qui nous envoient dans les geôles alors qu'ils savent pertinemment que nous avons raison de refuser l'esclavagisme social en allant voler les sous-sous qu'ils cachent dans les banques. Quand un magistrat me dit que les sans-papiers n'attaquent pas les banques, que dit-il? Il me dit simplement qu'il aurait préféré que je bosse au noir, un délit, plutôt que d'aller voler 3,50€ dans une banque. Et quel travail me propose-t-il, en sous-entendu? Pardi, de venir chez lui faire le domestique. Jadis, ils avaient tous une bonne étrangère, afin qu'elle n'entende pas et ne comprenne pas les conversations à la table d'hôte du maître de maison. Le seul droit, faveur que les pauvres avaient, restait celui de lécher madame ou de sucer monsieur. J'invite à mordre dans le vif du sujet. Salut à toutes et tous, hommes, femmes, enfants, transsexuels, incarcérés. Lettre à l'envolée, octobre 2005.
Et l'argent du hold-up de la banque?
À cette heure, il est retourné d'où il venait, monsieur le juge.
W comme oiseau.
À Césarée Battisti. Très chers amis, mettez un homme en prison, il en sortira toujours quelque chose de bon. Oui, puisque vous êtes là, et je vous en remercie tous et toutes. Que vous dire? Sinon, tentez de vous expliquer la simplicité de ce qui m'est arrivé. Certains de mes amis ont été surpris, peinés, choqués par ma récidive. Mais aucun n'a été déçu, puisque la déception porte en elle un jugement, et l'amitié ne juge pas. Il y a eu des questions comme « Il est con ou quoi ? Souffrirait-il du syndrome de Stockholm au point d'aimer la prison ? Est-il fou ? Il aurait pu prendre des précautions, non ?» Toutes ces questions sont légitimes si on les résume à celle-ci, paradoxe absurde. Serait-il fondamentalement honnête? Au point que son mépris des cagoules, des masques, des salles de conseil, des délibérés, des ministères et des confessionnels l'écœurent? C'est là-dedans que s'inscrit non pas ma récidive, mais ma continuité. Ma présence en prison est une façon radicale de dire non. Lorsque je suis sortie de prison, on ne m'a pas demandé d'être réinsérable, mais d'être recyclable. On m'a demandé aussi d'aller mendier un temps d'identité à la préfecture de police. Pour adoucir ce dressage, on m'a titré du statut d'écrivain. Écrivain, drôle de mot. J'ai essayé, mais j'ai rencontré des TTS, Thénardier du théâtre social, avec 400 000 francs à la clé pour mettre sur scène des pauvres capturés dans la grande réserve de la misère sociale. Des pauvres bénévoles. J'ai dit non. Pas parce que je suis écrivain, mais parce que je me suis heureusement souvenu que j'étais un voleur et non un voyou. La différence? Un grand sociologue dont je tairai le nom par modestie et par pudeur a dit « Les voyous autodidactes qui n'ont pas fait l'ENA ont des ambitions bourgeoises, alors que les voleurs n'ont que des rêves d'enfants. » Et à propos d'enfants, je me souviens de ce jour du mois de mai 1967, où me promenant avec mon père, j'écoutais le brave homme me donner des conseils d'existence. Déjà à l'époque, Je savais que c'était l'état d'esprit qui donne la vision du monde. Papa donc me montra un oiseau dont le bec s'ornait d'une brindille. Il lâcha, parole du code pénal, ce proverbe. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, ébahi par cette révélation, je répondis plein d'admiration, sauf le coucou. Mon père hurla. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je hurlais de plus belle. Quand le nid est fini, l'oiseau est mort. De ce temps date mon amour pour les coucous, les pies et les frégates. Comme tous les êtres humains, l'envie, le rêve de voler se fit en moi. Je me sentis pousser des ailes, un bec et des serres rien que d'évoquer le mot rapace. Plus tard me viendrait la tendresse pour les pigeons et les faisans. Je me voyais même plus tard travailler, exerçant ce beau métier de dentiste, pour les poules. J'acceptais l'idée de faire l'autruche en faisant mienne la maxime du grand philosophe dont je tairai le nom, par pudeur et par modestie, qui conseille ceci. Quand tu fais l'autruche, pense à protéger ton cul. Enfin, aujourd'hui, l'oiseau est en cage, et que me reste-t-il sinon ma voix ? J'imagine bien que parmi vous, certains ne me connaissant ni de Rachid ni de Zorla doivent se dire « Pourquoi filer du fric à cet enfoiré de pilleur de banque ?» Je te répondrai ceci, mon frère, en vérité, et pourquoi pas. Quand je pense aux 760 millions de dollars que vous allez payer pour le Crédit Lyonnais, ne vous ai-je pas vengé un peu ? Oui, mes frères et sœurs, beaux frères et belles sœurs, frères et sœurs adoptives. Il est temps que je pense de penser une nouvelle pensée en y réfléchissant bien. Non, ce n'est pas de la langue de bois. Je ne me risquerai pas la langue de bois alors que je sais que vous avez des oreilles en taille crayon. Ne croyez pas que je commence ici une future carrière de gourou. Nenni, nenni. Il me faut juste un ordinateur. Nous verrons ensemble le mois prochain pour l'imprimante. Et pourquoi donc ? Pour écrire un épisode de Navarro ? Non. De Juliesco ? Non. Pour vous écrire des livres afin de reprendre le flambeau des anciens. Bien sûr, je ne suis pas Genet, ni Verlaine, ni Sade, ni... Je suis un être humain. N'ai-je pas deux bras, deux jambes, deux yeux, deux narines, deux testicules ? Oui, certains jaloux se disent qu'il a tout en double, et c'est souvent le reproche qu'on me fait. Mais blague à part, n'a-t-on pas le droit à un ordinateur, une imprimante, un scanner et une petite rente mensuelle pour l'encre et le papier ? Hein ? Jouis des protestations ? Je conclurai sur les mots de Fernandel qui donna cette réplique dans je ne sais plus quel film où l'escroquer autrui. Enfin, pour avoir de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un. Afed emprisonné, Afed martyrisé, Afed assoiffé, mais un jour Afed libéré. Lettre à l'envolée, juillet 2005.
Il m'est arrivé de vouloir me réinsérer, mais à force de tourner en rond pendant des années dans les cours de promenade des prisons, il est dur de marcher droit, du jour au lendemain. Ça en devient presque biologique. D'ailleurs, ça l'est, puisque la tôle s'imprime à l'intérieur, et je mettrai ma main de voleur à couper que mon âme doit porter en filigrane un numéro d'écrou. En plus, en prison, j'ai toujours su pourquoi j'y étais. Mais dehors, je ne saurais jamais pourquoi j'y resterai. Entre la prison et l'extérieur, je n'arrive pas trop à voir de différence. C'est comparer le zoo de Vincennes à la réserve de Thoiry. Derrière les barreaux, on se révolte et on peut arriver à tenir le coup. Dehors, en captivité dans ce que l'on croit être la liberté, on est malheureux, sans savoir pourquoi. Souffrir n'est rien à mes yeux, si avoir mal est visible. J'aime les plaies franches, je déteste les mots internes, sournois, invisibles, bref, les enculeries. Les chirurgiens ont dû être inventés grâce à ce genre de philosophie. Il fallait bien ça pour ouvrir un bide et voir ce qu'il y avait dedans. C'est tout de même drôle que la prison ne soit pas dissuasive et que la récidive puisse perdurer. Durant mes années noires, je me disais toujours qu'après-demain serait mieux qu'avant-hier. Et les deux jours minéraux du centre mettaient deux silex pour alimenter un feu de haine en moi. Pourtant, il est toujours dans la vie d'un prisonnier, un moment où tout peut entrer dans l'ordre de la soumission, une période où l'on peut se réinsérer, où l'on sent qu'on doit le faire, qu'on est prêt à recommencer à zéro, prêt à pardonner à la vie. Moment de conscience, où l'instinct de conservation hurle à la mort de tout, si. À cet instant précis, la porte devrait s'ouvrir, et les gardiens, directeurs et autres loustiques diraient au tôlard « Va, fous le camp, petit con !» Le prisonnier ne pourrait que dire merci, et filer, sans jamais récidiver. Ce bref éclat de vie trop vite étouffé par la haine et le renoncement n'est jamais décelé par ces pseudo-professionnels du monde carcéral. Ils n'ont pas été dressés pour reconnaître le désir de vivre. Ils ne détectent que la rage de vivre. Et la rage, on sait ce qu'elle inspire.
T'es qu'un flic de Paris, t'es qu'un flic de Paris. T'es la flicaille des gens honnêtes, avec un œil dans nos assiettes. Tu fais le beau aux sorties d'usine, l'air agrippant de Steve McQueen. Les pigeons font sur nos toitures, que tu fais toi sur nos voitures. Autant qu'ils visent les monuments, que toi t'évites les gouvernants. T'es qu'un flic de Paris, t'es qu'un flic de Paris. T'as de l'avancement qui se croise les bras dans les idées lorsque t'en as. Tu bouges à droite pour le turbin, tu votes à gauche pour te faire du bien. Comme une peau d'âne qui aurait pas tout et de la pèlerine et rien en dessous. De la baudruche assermentée gonflée au vent de la société. Bref, un flic de Paris. Bref, un flic de Paris. Dans le panier de la connerie, tu vas taper sur les gars qui n'ont pas voulu marcher tout droit et que ton odeur n'impressionne pas. Tu me diras que tu fais ton boulot, que t'es pas payé pour le cerveau. Heureusement qu'on ne paye pas pour ça, parce que sinon tu boufferais quoi? Tête les flics de Paris, tête les flics de Paris. Depuis que t'as prononcé tes vœux, tu as l'esprit qui boite un peu, moitié par les coups du regret, moitié par les coups de Beaujolais. Si tu fous tes amis au clou pour un danger qui te sert le coup, garde le ridicule qu'on te donne, c'est le seul au moins qui ne tue personne. Même les flics de Paris, même les flics de Paris. Chez toi quand on pose des questions, c'est pas un coup de conversation. Même quand t'interroges le bon Dieu, il ressort jamais avec des bleus. T'as la manière de te rendre utile en uniforme ou en civil. T'as beau bouffer du gargantua, t'es jamais qu'un larbin de l'État. Et un flic de Paris, et un flic de Paris. Enveloppé de ta sépulture, on sortira de la préfecture pour un petit coin à concession où l'on fera pousser des bâtons. En attendant, tu fais des petits qui bougent le soleil de Paris pour que continue la synthèse de cette spécialité française. Quel flic de Paris, quel flic de Paris.
X comme Q.
Un petit clin d'œil à propos de l'islamisation. La paix avait programmé XXL, une chaîne de Q. Et au bout d'un mois, elle s'est arrêtée pour revenir sur MTV. Parce que les prisonniers islamistes se sont plaints auprès de la direction pour cette infamie cathodique. Les pauvres, appuyés involontairement sur les numéros 1 et 3, est tombé dessus à partir de minuit. Ce qui est choquant là-dedans, c'est que l'AP plie à une pression islamiste et que les islamistes sont prêts à collaborer avec l'AP au nom de leur morale. Échange de bons procédés. Les deux finiront par l'avoir dans le cul. Dans les années 80, c'était les prisonniers pour mœurs qui s'étaient plaints sous prétexte que ça foutait leur psychothérapie en l'air et que, surtout, ça soit mis dans leur dossier. Ils avaient manifesté contre l'abomination qu'est la pornographie. Moi, ma parole, quand ça s'est arrêté, ça m'a sauvé la vie. Je perdais 2 kilos tous les soirs. Je me transformais en Derrick non-stop. Et mes ressources naturelles ne sont pas éternelles, nom d'une bite.
C'est comme crouille.
Aux jeunes prisonniers politiques des maisons d'arrêt françaises, elle-même en banlieue. Salut et honneur. Il m'importe peu d'être algérien ou autre, mais je ne me fous pas des hommes, femmes et enfants morts sous diverses tortures pour que je sois aujourd'hui algérien. Ils m'ont fait un cadeau de vie que je garde en moi, même si je n'en use pas à l'extérieur pour une revendication revancharde ou misérabiliste dans une dénonciation postcoloniale. Il y a eu guerre et ils l'ont perdu, point barre. Les Algériens savaient être les plus faibles, et ce fut leur force contre ceux qui se croyaient les plus puissants. Se pose aujourd'hui la question de qui je suis pour la France, ce que je suis pour la France. Voilà 45 ans que je le sais, un BBCR, Bico Bugnul Cruraton. Je vais donc m'attacher à ce qui. Et pour cela, parlons des autres. Tout d'abord, les harkis. J'ai regardé la carte de France. Je n'ai pas trouvé un seul bled qui s'appelle Arkizie ou Arkizia ou Arkiplage ou encore Villarki. Il n'y a pas plus de régions que de provinces sous cette appellation où habiteraient les Arkisois ou les Arkisoises. L'Arki donc n'existe pas en France, ou plutôt ne devrait pas exister, puisqu'ils sont français, paraît-il. Pourquoi ont-ils gardé, eux, leurs enfants et petits-enfants, cette appellation très contrôlée qui est en fait le nom d'un corps d'armée parallèle? Qu'en Algérie, on les appelle encore aujourd'hui les harkis, c'est recevable, compréhensible, d'une mémoire en souffrance, encore traumatisée. Mais en France, il est intéressant de voir que ce groupe de personnes n'a toujours pas été intégré, alors qu'on sait que ce que l'État appelle le prix du sang vaut le droit du sang. Si cette population parquée au nid à I n'a pas été intégrée, pourquoi la population d'origine immigrée le serait-elle? À qui peut-on faire croire qu'il a été un jour souhaité par l'État d'intégrer là où le seul but était l'exploitation totale des individus, puis leur rejet définitif au cas où ils ne seraient pas recyclables économiquement? Comme les anciens combattants coloniaux de 14-18, dont la retraite est plus qu'une honte à l'homme, une insulte à la vie. Tous les médias ont claironné, larmes à l'œil, qu'il restait 6 poilus survivants en France. Mais ailleurs, Maghreb, Asie, Afrique, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il a fallu 50 ans à l'État pour désintégrer Papon, le renier, et encore, avec une douceur et une tendresse proche d'un accompagnement filial pour un parent en fin de vie dont on souhaite hériter. C'est cela qui me fait me poser la question du « qui je suis pour la France ?». La réponse devient de plus en plus claire. Un enfant illégitime revendiquant un droit d'héritage contre un enfant légitime. Je suis donc pour la France un bâtard. Et chacun comprendra bien que je ne parle pas de papa-maman, mais de symbole. Il faut dire dès aujourd'hui aux jeunes Français d'origine française mais de coloris étrangers, les prévenir de ne jamais accepter de prendre les armes pour soutenir la France. Elle ne vous intègre pas car elle a peur de vous. Peur de ne pas pouvoir vous forcer par des rafles, par les discours tenus aux illettrés du bon temps jadis, à aller crever pour elle. Elle n'aura pas d'argument pour faire de vous une nouvelle génération de harkis, pour aller tuer de l'Iranien, du Syrien, etc. Elle va être obligée d'envoyer ses enfants légitimes et de vous laisser là, dans sa maison sociale. Il est évident que l'Europe va vers une guerre qu'elle désire parce qu'elle est exsangue et que si les capitaux sont chez elle, les richesses sont ailleurs. L'Afrique noire meurt de maladies, de famine, de guerre. Mais les survivants, un à un, pays par pays, se réveillent. Et s'ils ne sont pas encore en état de lutter contre l'ennemi invisible, ils sont en passe de penser, de deviner de plus en plus les contours de cet ennemi invisible, blanc et chrétien. La France, donc, n'a aucune confiance en vous, aucune sorte de sympathie pour vous, aucune amitié ou reconnaissance pour vous. Elle sait le mal qu'elle vous a fait et qu'elle est prête à vous refaire au nom de sa certitude de vous être en tout supérieur. Elle peut à peine souffrir ses propres pauvres. Elle s'en occupe en se bouchant le nez ou en dégotant un abbé Pierre à qui elle délègue une concession pour plus de 50 ans. Et ce n'est pas être haineux que de dire cela, mais il est temps que la France ouvre le vrai débat qui s'impose dans notre pays, de savoir si oui ou non une population d'origine étrangère ira se faire trucider pour elle, ne serait-ce que par reconnaissance de n'avoir pas payé d'impôts, tandis que le chômeur français sur son palier, prêt au combat et constipé par le devoir, bleu de peur, blanc d'angoisse et rouge de crainte, pour ne pas se chier dessus, devient fou de savoir sa future veuve rester chez elle entre un voisin basané, bruyant de rut, et un autre, noir, odorant de phéromones, tous deux dispensés des obligations mortifères qu'ils ne risqueront pas puisqu'ils ne sont pas citoyens. Pour conclure clairement, le simple fait qu'il y ait en France une communauté stigmatisée pour son appellation même de franco-harkis 50 ans après la fin d'une guerre démontre, preuve à l'appui, que perdure un racisme d'État au plus haut sommet des pouvoirs et que celui-ci est entretenu par une volonté politique incluse dans l'héritage de l'idée d'une suprématie blanche. À savoir que l'arabe domestiqué pour sa force de travail est le chaînon manquant entre l'homme noir ré-sauvagisé et l'homme blanc sur-civilisé. Pour notre suicide collectif, après les tentatives de suicide de l'humanité, que furent la traite des Africains et la Shoah, il ne nous reste plus qu'à souhaiter que les Asiatiques viennent vite nous euthanasier en faisant de nos obésités américano-européennes des sushis afin que les baleines puissent enfin vivre en paix. Monde de merde. Voilà quelques pages pour le torcher vite fait tant il me dégoûte. Plus que jamais, pas réinsérable dans ce monde-là, l'Abd el-Afed. Il y a dans les prisons françaises 800 nouveaux prisonniers politiques sans aucune étiquette partisane. Face qu'ils se fédèrent en un mouvement à leur sortie. C'est la racaille. Eh bien j'en suis. Lettre de Fresnes à l'envolée, février 2006.
V comme voleur.
Je suis voleur, c'est ma réalité, et pas comme beaucoup le pensent, ma vérité. Il arrive qu'on accepte le fait que je sois voleur comme d'autres sont handicapés, mais on m'objecte l'existence de violeurs et tueurs d'enfants. Genre d'argument massu histoire de m'étrangler, de m'étouffer dans le même sac. N'ayant jamais fait aucune guerre, que ce soit celle de 39-40 ou celle d'Algérie, d'Indochine, du Vietnam, de la planète Toto, il m'est très difficile de parler du viol des femmes et de l'assassinat des enfants. Pour moi, les personnes qui commettent des crimes sont, j'ai vérifié le fait en prison, souvent de bons pères de famille qui n'ont pas eu la patience d'attendre la prochaine guerre pour, en toute liberté et impunité, commettre ce que mon jargon appelle des enculeries. Je renvoie donc cette question à tout militaire. En y regardant bien, la criminalité sur un siècle a fait moins de dégâts mortifères qu'une société, quelle que soit sa nationalité ou son idéologie, en une semaine de conflits mondiaux. Moi, les problèmes sociaux ne m'intéressent pas. Je ne me suis jamais fait rembourser par la sécurité sociale et je n'ai jamais émargé au budget de la NPE. Je crois ne rien devoir. Évidemment, je ne me considère pas comme un saint, mais je n'ai jamais travaillé avec la haine en moi. J'ai pourtant vu des vilaines choses dans ma vie, et j'en ai pas mal subi dans mon enfance. Je n'en parlerai pas. Réflexe de pudeur ou protection familiale, je n'en sais rien. Ma certitude est simple. Je ne me suis jamais servi de mes douleurs pour les métamorphoser en circonstances atténuantes face à mes juges. Mes souvenirs peuvent être des putains, mais il leur faut un large trottoir ainsi qu'une clientèle choisie. Celle des amis qui ont souffert les mêmes horreurs et qui savent en rire. Je n'ai pas encore rencontré mon confesseur et je ne suis pas encore un gibier pour psychanalyste de Pissotière, pour sociologue de Vespasienne, pour curé de chiottes. Ma mémoire est un combustible dont l'énergie me fait vivre au jour le jour. Je n'ai pas à vendre ce gisement interne pour vous faire rouler les méninges et taquiner le clitoris cérébral.
Je ne suis pas un voleur qui est devenu écrivain, mais je suis un écrivain qui est devenu voleur. Parce qu'il est vrai que la première fois que j'ai volé du fric en cash, voilà. Et je ne suis pas un voleur malhonnête, parce que je n'ai jamais pris une pièce dans le porte-monnaie de mon père ou de ma mère, chose que vous avez tous fait ici, je le signale, sans dénoncer personne. Et le premier butin que j'ai eu, alors je ne savais même pas m'en servir, j'ai acheté une machine à écrire. Voilà, c'était une petite machine à écrire, là, tac, 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 et j'ai commencé à taper dessus.
Une Remington portative.
Même pas une Remington, je crois que c'était une merde en plastoc, là.
Olivetti, alors.
Voilà, Olivetti, un machin comme ça. Et j'ai tout de suite eu ce goût de vouloir comprendre comment ce que je lisais dans un bouquin, on le mettait sur une feuille. Voilà. Et j'adorais mettre les aligner l'alphabet et que ça tombe pile poil, etc. Voilà. Donc je me faisais, j'ai souvenir d'avoir tapé sur des feuilles complètement pourries, ensuite de coudre, gamin, de coudre et de me faire continuer avec la couverture et tout quoi.
B comme braqueur.
Mon métier, car c'en est un, est l'attaque à main armée. Je travaille habituellement avec deux armes de poing, une fausse pour braquer les gens et une vraie pour ces voyous ratés que sont les flics. Je fais l'échange d'armes sitôt que je sors de la banque, de la bijouterie ou de tout autre endroit à royalty. Je ne peux pas braquer des victimes avec le risque de tuer. J'aurais trop peur de tuer un homme ou une femme qui ressemblerait à un membre de ma famille. Quoique j'ai prévenu les miens de ne jamais bouger héroïquement face à un hold-up qui ne les concernerait pas autrement qu'en témoin passif. Je ne pourrais pas même haïr ou me venger des voleurs qui abattraient mon père ou mon frère mort par connerie. La médaille, carrez-vous là au cul. Les forcenés, 1992.
N comme non merci.
Je suis hostile au travail. Je suis hostile et réfractaire au travail, que ce soit en prison ou à l'extérieur. Pour parler de l'écriture de mes livres, j'ai trouvé une formule. Je suis salarié de mes loisirs. En prison, je n'ai jamais travaillé. Lorsque le travail était obligatoire, j'allais au mitard. Le directeur de Clairvaux m'a demandé de faire au moins des études, parce que, selon lui, il était impossible de laisser voir aux autres prisonniers que je n'étais pas malheureux en ne travaillant pas. Ce à quoi j'ai dit, ni travail, ni études. On crée un sous-prolétariat à l'intérieur de la prison. Chaque fois que l'État propose d'en construire une, le maire ou le conseiller régional sont ravis. Passé les premières réticences à l'égard des criminels, le boucher travaille, le marchand de tabac travaille, le chômage baisse dans la région, cela crée de la richesse. Les prisonniers, qui y contribuent, eux, n'en bénéficient jamais. Je ne dis pas que ceux qui travaillent sont des imbéciles, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent manger, ils ont intérêt à bosser, surtout dans les prisons actuelles, où c'est semi-privé. Les entreprises de sous-traitance, telles la Sodexo, apportent le minimum dans les plateaux repas. Et un prisonnier qui veut manger à sa faim doit travailler énormément, pour 200 euros par mois, afin de pouvoir acheter à cette même entreprise le supplément de nourriture qu'elle lui vendra. Je suis hostile à un système où le ministère de la Justice est capable de produire une brochure qui est un appel d'offres aux entreprises. Autant décréter tout de suite qu'il s'agit d'une population disponible sur place en permanence, corvéable à merci, n'ayant pas le droit de grève et que l'on peut déclasser sans lui payer le chômage. Une population qui, en cas d'accident du travail, est déclassée sans indemnisation. C'est la seule population ouvrière que l'on peut fouiller à nu lorsqu'elle sort des ateliers. Imaginez ça à la sortie des usines Renault. La prison est le seul endroit où l'on peut mettre à nu les ouvriers.
Le maton sourit en coin et me dit tranquillement ce matin « Vous bossez ». Un jeu cyclique depuis quelques années avec l'administration, vu que le travail est obligatoire avec l'option « études » si on n'est pas manuel. Tout, sauf l'oisiveté. Ça, les oisiveurs, ils n'aiment pas en tôle. Donc, tous les 2-3 mois, ils s'amusaient à me classer. C'est comme ça que ça se dit. Classer quelqu'un quelque part pour faire quelque chose. Pour moi, le mot « classe » faisait résonner le mot « lutte ». Alors, comme d'habitude, ma réponse restait la même. Non, merci. On aurait pu en rester là, mais pas du tout. La suite venait assez vite. Un rapport disciplinaire et me voilà reparti pour la 10e fois en direction du cachot, du mitard, du quartier disciplinaire pour 8 jours d'extrême solitude. Le directeur lui-même en avait un peu marre de me voir debout dans son prétoire avec mon œil brillant, ma bouche gourmande de gamin de 20 ans lui dire encore et encore « Non merci ». Il m'avait proposé, le brave homme, de faire des études, que ça me servirait plus tard dans le dehors de la vie, comme si ici on était tous morts. Ou mieux, il m'encourageait, me poussait, me canalisait, me tuterait, me bonsaïavait à apprendre des langues. L'espagnol, l'anglais, ça pourra vous être utile. Moi, le côté voyage. Franchement, je me suis toujours sentie bien où j'étais. Et pour tout dire, mon premier habitat restait ma carcasse. Alors, la trimballer avec muscles, chair, os, etc. Drôle de caravane. Et puis, parler une autre langue. Déjà en français, j'avais peu, voire rien à dire. Alors,
dire rien dans une autre langue. Donc, ben non, merci. Au mitard.
Version sonore du numéro 41 de L'Envolée, avec des entretiens et des textes d'Afed Bednotman, voleur, écrivain et cofondateur du journal, pour en finir avec toutes les prisons.
Puisque vivre m'a emmerdé depuis le début, et que j'ai lutté pied à pied pour qu'on ne me fasse pas chier plus que nécessaire, qu'on ne me casse pas les couilles au-delà du minimum raisonnable, juste assez pour ne pas bien vivre petitement, mais mal survivre grandieusement, histoire de m'amuser un peu, me distraire, non de la mort et de la misère, mais du temps et de l'interminable suicide qu'est son terrible ennui. Alors, j'aurais passé mon existence à être joyeux, tout simplement en misant sur la joie et sans chercher à être heureux socialement, ou me pourrir à quêter l'utopie du bonheur. Juste joyeux. Il ne me reste donc plus qu'à me dégoter un petit coin d'ours pour vieillir sans trop souffrir, si possible, et un endroit de sanglier pour mourir d'un fou rire, j'espère. Et surtout, un trou asséché de silence, sans encre de n'avoir plus rien à écrire ou à dire de ma solitude. Celle qui vous a enveloppé en papier cadeau dans le papelard des livres. Et pour ma sépulture, ça ne valait pas la peine, mais ça valait le coup. Gravez-moi donc ça sur un carré de pierre simple ou un cube de béton percé en boîte aux lettres que je puisse continuer mes éternelles correspondances d'amitié amoureuse. Et s'il vous plaît, d'encore me laisser ouvert les yeux. Merci.
Monsieur pense que les poulets sont devenus une pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.
Ben voilà, wesh, à la semaine prochaine, donc sur les ondes de N des chaînes sur Radio Galère.
C'est ça. Et on vous rappelle que vous pouvez retrouver cette partie comme la première partie de L'Envolée numéro 41 version sonore sur le site de N des chaînes, ndeschaînes.free.fr.
Voilà, à tous ceux qui nous écoutent le vendredi matin, force, courage, détermination. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Bon salut à tous les prisonniers.